Et puis, bah maintenant, c'est notre invitée hein, qui va nous éclairer sur les tenants et les aboutissants des tendances. Bonjour Jennifer Murzo.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et co-autrice avec Safia Azdine du livre « Tendances, plaidoyer pour ne plus en suivre aucune » aux éditions Robert Laffont. Alors Jennifer, les tendances, on s'imagine toujours qu'on va parler principalement de mode vestimentaire, mais en fait, c'est bien plus large que ça. Ça englobe tous les aspects de notre vie, de la déco à la spiritualité. Est-ce que vous pouvez nous préciser le champ d'action des tendances ?
Oui, en fait, avec Safia, on en a identifié de manière un peu arbitraire quelques-unes qui, selon nous, étaient symptomatiques de l'époque. Et c'est vrai que on a observé qu'en effet, elle s'exprimait dans tous les champs de la vie privée. Donc, ça va de la déco à l'art de vivre, à la mode, en effet. Et en fait, ce qui est un petit peu nouveau aujourd'hui, les tendances, c'est pas un phénomène nouveau. Ce qu'il est un peu plus aujourd'hui, c'est qu'elles se posent davantage comme des espèces d'injonctions au bonheur dans un monde où je crois qu'il y a une espèce de déshérence et de crise de sens assez remarquable et presque sans précédent, qui fait qu'on ne sait plus trop à quel sens se vouer et que quelque part les tendances deviennent un peu des petits phares dans la nuit auxquels se raccrocher parce qu'on est paumé. Donc,
vous dites que les tendances, ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que c'est vrai qu'on a en tête en tout cas que c'est quelque chose qui est plutôt apparu récemment, pourtant dans nos sociétés modernes et très consommatrices, mais non, il y en avait même avant ça.
Bah, je pense que les tendances sont nées en gros avec la société de consommation quand même, parce que le but de la tendance en premier lieu, c'est quand même de remettre du fuel dans la machine pour recréer du désir, pour redonner envie de consommer et de renouveler le champ d'objets dont on s'entoure pour nourrir l'industrie, hein, concrètement. C'est quand même ça le but premier des tendances, je pense. Et donc, je pense que c'est né dans les années 50-60 avec cette société de consommation.
Et c'est vraiment cyclique, non, les tendances ? On dit qu'une tendance revient tous les 20 ans. Est-ce que ça s'est avéré ?
Dans la mode, très clairement. Dans d'autres champs, je pense que ça l'est un peu moins parce que, par exemple, aujourd'hui, les tendances suivent énormément l'évolution de la technologie. Mmh. Et par définition, la technologie va plutôt dans un sens qui n'est pas cyclique, qui est basé sur l'obsolescence, en fait. Mmh. Et donc, l'obsolescence, on n'en revient pas. Une fois que c'est terminé, c'est terminé.
Mais sur la mode et la déco, quand même, non ? On retrouve de nos parents, carrément, quand on était petits, dans les années 90, non ?
Exactement. Moi, ce que je me disais, ça fait partie des nombreux symptômes qui montrent que je vieillis. Et je suis arrivée à un âge où je peux me souvenir de modes que j'ai connues adolescentes reviennent désormais.
Ça veut dire qu'on vieillit. Hein.
Et voilà. Et c'est toujours un constat un peu accablant. Mais
on doit avoir à peu près le même âge parce que je me fais aussi le même constat dans la tête. Merci beaucoup, Jennifer. On reste ensemble dans Bienfait pour vous. On vous décrypte ce matin les secrets des tendances. Elles sont omniprésentes et insidieuses sur nos écrans et dans nos magazines. Elles s'offrent à nous comme des solutions miracles à tous nos problèmes. Alors est-il possible de leur résister ? On y revient dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Ravie de vous retrouver sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et toujours accompagnée de la journaliste Jennifer Murzo, co-autrice avec Safia Azdine du livre « Tendance » au pluriel, plaidoyer pour ne plus en suivre aucune, paru aux éditions Robert Laffont. Jennifer, pourquoi on aime adopter des nouvelles tendances ? C'est l'attrait de la nouveauté ? Peut-être qu'on aime le changement ? Ou tout simplement, vous disiez tout à l'heure, c'est comme un phare dans la nuit, on est perdu ?
Oui, je pense qu'on vit une époque particulièrement troublée où on sait pas, on n'a plus trop de référents communs, de projets politiques communs. Tout est un peu atomisé et ça crée, je pense, beaucoup d'inconfort. C'est ce qu'on a cherché à traiter, à comprendre d'ailleurs dans le livre. Et effectivement, les tendances, quelque part, c'est un truc grégaire qui rassure, quoi. On rejoint le troupeau et l'humain est à cet élan très grégaire qui a beaucoup de bon d'ailleurs à plein d'égards, mais qui fait que je pense que ça le rassure de faire partie d'une tribu. Le problème, c'est que les tribus en question sont pas forcément vertueuses. Enfin, les tendances sont pas forcément vertueuses.
Oui, mais à la fois c'est quand même valorisant, je sais pas, d'être à la page, d'être à la mode. On est mieux vu des autres quand on est dans la tendance, quand on suit la tendance. Est-ce que d'ailleurs au final c'est pas pour on les adopte pas ces tendances plus pour les autres que pour nous peut-être?
Si, il y a un sujet de représentation, c'est clair, c'est effectivement. Et puis en plus, je pense que ça, c'est aussi énormément accentué par les réseaux sociaux, puisque comme on met en scène nos vies constamment désormais, ben on recherche à prouver cette appartenance de plus en plus.
Oui, parce que Mélanie, elle a acheté par exemple des bottes beige, mais vraiment moches.
Mais c'est méchant, ça.
Mais je vous le dis.
Elles sont moches mais belles.
Mais c'est ce qu'on s'est dit avec Mélanie, c'est-à-dire qu'elles sont pas terribles, mais c'est vachement à la mode.
Comment vous racontez ma vie.
Mais c'est quoi ces bottes?
Bah, je sais pas, elle les a pas là aujourd'hui, mais c'est assez vilain. Et qu'est-ce que ça dit de Mélanie justement? Parce que vous les aimez pas ces bottes et vous les avez achetées.
Bah, je les aime autant que je les déteste, mais je les aime bien quand
Mélanie
même.
Mélanie s'est laissée manipuler.
Ouais, je crois.
Et voilà. Et tout est question de résistance. Je pense qu'il faut résister. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre. Non aux bottes moches qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir.
C'est ça. Oui, mais en même temps,
soyons forts.
Il y a de l'humour dans ce sujet des tendances, justement. C'est vrai que parfois, on a tendance à tout voir comme une solution, faire des câlins aux arbres, ces tendances, soigner son anxiété, pour se reconnecter à la terre, adopter le minimalisme si on est bordélique. Enfin, mais tout ça, c'est léger quand même en même temps. C'est pas bien grave, non?
Alors nous, on a pris le parti effectivement d'employer le ton de la dérision, parce qu'en effet, on a l'impression que de toute façon, on fait passer les messages plus efficacement avec de l'humour et un peu de mauvais esprit qu'en étant moralisateur et didactique et pénible. Néanmoins, c'est léger, mais il y a aussi un problème, c'est que ça nourrit énormément et la société de consommation qui est en train de détruire les écosystèmes qui nous font vivre, donc ça c'est quand même un sujet un peu gênant. Et la deuxième chose, c'est que je pense que ça nous prive un peu de notre libre arbitre et de notre esprit critique. Et ça aussi, c'est gênant, parce qu'à terme, ça a des conséquences sociétales très dommageables. Et en l'occurrence, vous parliez de la sylvothérapie, le fait de faire des câlins aux arbres. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Moi, je trouve ça très bien d'aller se promener dans la nature. Je pense qu'il faudrait le faire beaucoup plus souvent. Néanmoins, ce qui me gênait dans le fait que ce soit devenu une tendance, c'est qu'on soit aussi assisté, qu'on ait besoin d'un guide, d'un mode d'emploi pour aller se promener dans la nature, c'est déplorable. Mmh. En revanche, les vertus du fait de ce qu'on appelle les bains de forêt au Japon, etc., sont prouvées scientifiquement, etc. Il n'y a aucun débat là-dessus.
Est-ce qu'on a besoin de payer un stage 6 000 euros la semaine pour faire ça?
Est-ce qu'on a besoin de payer et d'être pris par la main? Non. Donc c'est là qu'on dit que ça contrevient à notre esprit critique, et c'est un peu infantilisant, et c'est dommage, parce qu'on vaut mieux que ça.
Je vous propose qu'on aille titiller de plus près justement ces tendances, et pour cela, on va prendre en ligne Vincent Grégoire. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur, alors c'est pas facile à dire, Consumer Trends and Insights chez Nelly Rodi, une agence qui justement prédit les tendances qui vont arriver dans les années à venir. Comment vous faites, vous, pour les connaître à l'avance?
Alors c'est un travail de prospective, c'est un travail d'anticipation. Toute l'équipe est mobilisée pour aller pêcher tous ces petits signaux faibles, ces petits snobismes, ces petites singularités, ces petites branchitudes dans des tas de domaines. Donc on a le radar sur Rhône à longueur de temps pour aller, en employant un anglicisme, spotter ces micro-phénomènes et faire du calcul de probabilité en fonction du contexte social, politique, économique, environnemental, identitaire, spirituel, enfin en fonction de plein de paramètres, pour voir si c'est juste une anecdote ou si ça peut générer une adhésion plus complète de la part des individus, de la part des consommateurs.
Donc effectivement, Vincent, vous n'avez pas de boule de cristal, c'est quelque chose de très étudié, enfin, vous observez, très observateur de tous les critères dont vous venez de nous parler. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple peut-être d'une tendance concrète qui a émergé chez vous, pour qu'on comprenne mieux, pour illustrer ça?
Ça fait des années qu'on parle de ce besoin d'exorciser cette réalité très anxiogène avec... se raccrocher à de la superstition avec... il y a eu le phénomène Harry Potter, ça c'est sûr, mais le besoin qu'on ait de se bricoler des spiritualités, des sixième, septième sens, du magique, du merveilleux, ça donne des tendances qu'on pourrait appeler Dark Academia, en hommage justement à ces référents Harry Potteriens. Ça c'est quelque chose sur lequel on avait mis le doigt. On s'était rendu compte pendant le Covid qu'il y avait beaucoup de gens, pendant les confinements, qu'il y avait beaucoup de gens qui se bricolaient des petits hôtels du souvenir, un peu gris-gris, fétiche, amulette, que des tas de, notamment la jeune génération, se faisait faire son signe astrologique, enfin son ciel astrologique, beaucoup portaient des pierres avec des bienfaits, enfin qu'il y avait un gros retour des sorcières, de toute cette dimension un peu animiste.
Magique, ouais. Ouais, un peu
ouais,
magique.
Voilà, et que bah, ça influait sur la consommation. Il y a même le Ritz qui a lancé un bar dans cet hôtel de luxe où vous pouvez consommer des cocktails en fonction de votre signe astrologique.
Enfin, ah oui, ça va
un
loin.
Besoin merveilleux, de magique, d'enchanté.
On a parlé il n'y a pas longtemps des cosmétiques qui se basent sur l'astrologie, justement. C'est vrai, hein, effectivement.
C'est vraiment une tendance, bah, vous avez raison.
Mm-hmm. Une Kate Moss qui vous lance Cosmos, ça participe de tout. Donc nous, on va à la pêche à toutes ces petites choses comme ça qui s'additionnent et qui sont révélatrices d'une posture, d'une attitude. Nous, ce qu'on regarde, ce sont quoi les nouvelles couleurs, les nouvelles matières, les nouveaux sons, les nouveaux mots, les nouvelles attitudes, les nouvelles esthétiques, les nouveaux talents. Voilà. En ce moment, il y a un gros retour de l'extravagance. On l'a vu avec le succès d'émissions autour des dragues, par exemple, du
transformisme. Dans mes chaussures, Julien.
Et le moche, Vincent, c'est la mode, hein? Du moche.
C'est aussi la mode. Il n'y a plus une tendance. Dans les années 60, 70, on avait des lignes éditoriales qui étaient très claires. Il y avait une longueur de jupe, une couleur de chaussette, voilà, une silhouette. Maintenant, il y a différentes tribus qui cohabitent. Et le Burke Moche Trash, ça fait partie de toute une somme d'influences. Voilà, ça fait partie de toute une somme de tendances. Mais ce qui est moche pour quelqu'un est cool pour d'autres.
Oui, bien sûr. Enfin, voilà. Chez Mélanie, c'était vraiment moche, Vincent. Mais merci, vraiment merci pour votre éclairage. Merci à vous. Jennifer, je reviens vers vous. Est-ce que pour vous, les tendances sont forcément liées au consumérisme? Parce qu'il y a quand même des exceptions. On peut aussi se dire que c'est de la créativité, non?
Oui, certes, il y a une dimension créative. Néanmoins, non seulement je pense que c'est quand même majoritairement lié effectivement au consumérisme et au fait de devoir nourrir la machine de la consommation, et en plus, un autre aspect qu'on a identifié et qui nous semble peut-être encore plus pernicieux, c'est que ça sert aussi à servir le capitalisme. C'est-à-dire que même des tendances qui en soi sont inattaquables, la méditation, la pleine conscience, le yoga, ce sont des choses qui sont pareilles, dont les bienfaits sont prouvés et indéniables, eh bien, on va se servir de ces choses-là pour être plus performant au travail, pour encaisser des conditions de travail qui sont nulles et odieuses.
Mais on va essayer de se détendre. On a l'impression quand même qu'il y a une tendance en ce moment, c'est d'être aussi anti-tendance, justement, avec la mode durable, des comportements plus responsables. Donc, elle n'a pas que celle-là, elle a des bons côtés de tendance, d'être contre les autres tendances d'origine, quoi.
Ouais, mais le truc, c'est que ça devrait même pas être une tendance, si vous voulez. Ouais. Parce que le propre de la tendance, c'est de disparaître et c'est d'être un petit peu superficiel. Donc ça devrait pas être une tendance de ne pas suivre les tendances. Ça devrait être une philosophie.
Et quand ça devient une tendance, c'est peut-être parfois aussi pour se donner bonne conscience, dans le fameux greenwashing.
Oui, alors le greenwashing, c'est un des trucs que je trouve le plus cynique et très symptomatique de l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mode a été beaucoup attaquée comme étant l'une des industries les plus polluantes au monde. Les conditions de travail ont été révélées, etc., des gens qui sont esclavagisés. Et donc, il a fallu montrer patte blanche. Et au lieu de vraiment changer les causes de ce système atroce et de changer les conditions de travail, les modes de production, etc., on met des petits pansements et des petits labels qui disent c'est à 5% bio, ça a été designé en France alors que c'est fabriqué par des enfants en Chine. Enfin, toute cette hypocrisie, elle est particulièrement odieuse à mon sens, parce que déjà, elle nous prend pour des cons. Et puis parce qu'en plus, elle perpétue tout ce qui ne va pas dans ce système. Donc ça, c'est particulièrement mal, ouais.
Eh bien, merci Jennifer. On sera de retour avec vous dans quelques instants pour décrypter encore ce qui fait les tendances et pourquoi, qu'on soit femme au foyer, architecte, ouvrier, retraité, on se laisse souvent porter par ces dernières. Alors, comment faire autrement, ou en tout cas succomber, mais davantage en conscience? On va continuer de tirer tout ça au clair sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1, et merci si vous êtes avec nous depuis 11h. On tente d'apprendre à se libérer du diktat de la tendance qui est partout autour de nous. Cet objectif, c'est la journaliste Jennifer Murzo qui nous en parle. Jennifer, vous dites que les tendances sont nocives car elles sont là, donc on l'a dit beaucoup depuis tout à l'heure, mais pour nous pousser à la consommation, et elles nous privent donc d'une certaine manière d'une forme de liberté, de notre part de liberté. Pourtant, on l'a dit aussi tout à l'heure, mais il y a des tendances qui clairement nous veulent du bien, aller se mettre à la cohérence cardiaque, au
le
yoga,
minimalisme.
Voilà, mais tout ça c'est bon, et pour la planète et pour moi.
Oui, bien sûr, mais en fait, encore une fois, on ne porte pas de jugement de valeur sur les caractéristiques de certaines tendances qui, en effet, sont... Enfin, moi, par exemple, je pratique le yoga. Je sais très bien que, quelque part, j'ai succombé à une tendance en le faisant. Je me suis sauvé la vie en buvant du vin blanc et en faisant du yoga pendant le confinement. Si je n'avais pas fait ça, j'aurais pété les plombs. Et donc, je suis consciente que j'ai succombé à une tendance et que, néanmoins, elle m'apporte énormément. Donc, on ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et dire tout est nul, il faut faire confiance à rien du tout, etc. En revanche, on pense que c'est très important d'essayer de mobiliser davantage son esprit critique et d'aller piocher ce qui nous semble légitime et intéressant, et aussi de questionner l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, sur la planète, parce que c'est un gros sujet quand même, et qu'il y en a plein qui sont profondément destructrices.
Je vous propose qu'on écoute un témoignage à présent. C'est celui d'une personne qui a vécu des deux côtés des tendances. C'est le témoignage de Lucie Lebas. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Vous êtes une ancienne fashion victime, vous êtes reconvertie dans la mode responsable et vous êtes désormais coach en minimalisme. Alors, donc je viens de le dire, vous êtes une ex-fashion victime. Je crois même que vous travailliez à l'époque, en tout cas dans la mode, c'est ça ?
Exactement, oui, il y a 7-8 ans.
Et alors, est-ce qu'on peut parler d'addiction pour vous ? C'est comme ça que vous qualifieriez le niveau de dépendance que vous aviez face aux tendances ?
C'était complètement une addiction, parce que j'allais à ma pause déjeuner acheter des vêtements.
Ah oui, alors que vous travailliez dans un milieu...
Exactement.
Ouais, d'accord.
Et c'était, donc vous consommiez beaucoup. Enfin, je sais pas, donnez-nous un exemple pour qu'on se rende compte quelle était votre vie avant.
J'avais un dressing qui dépassait les 600 pièces.
Oh, 600 pièces, effectivement, c'est là, énorme. Vous nous battez largement. Mais vous avez eu un déclic un jour et vous avez changé votre mode de consommation. Ça a été quoi ce déclic vers une façon de vivre plus durable, plus éco-responsable?
Complètement, oui. En fait, à cette époque, j'étais beaucoup dans la mode et j'ai été invitée à une soirée de Fashion Week, donc la semaine de la mode à Paris. Mm-hmm. Et il y avait plein de mannequins qui étaient invités ce soir-là et j'étais très, très stressée parce que, effectivement, j'avais pas de confiance en moi. Hein. Pour consommer autant, il ne faut pas avoir confiance en soi. Et j'ai stressé toute la journée pour savoir comment j'allais m'habiller. Et le soir, finalement, j'ai mis une tenue super simple, un perchecto, un jean, un t-shirt blanc. Et les mannequins m'ont toutes dit que j'étais super bien habillée. Et à partir de là, je me suis dit que jamais je me reprendrais la tête. Et j'ai décidé de tout virer.
Alors justement, depuis, vous êtes devenue coach en minimalisme. C'est quoi maintenant votre rapport aux tendances, d'une manière générale ?
De manière générale, je vais les suivre parce que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, par la force des choses, je vais les suivre. Par contre, je suis dans une démarche beaucoup plus intemporelle. En fait, la mode, ça va, ça vient. En ce moment, c'est la mode des années 2000. Je ne la suis pas du tout parce que je sais que dans 6 mois, on n'en parlera plus. Et du coup, je vais beaucoup plus être sur des vêtements qui vont durer dans le temps, 10, 15 ans minimum.
Vous êtes passé de 600 pièces à combien dans votre dressing aujourd'hui ?
40.
Ah oui ? Effectivement, il y a eu une belle décroissance. Merci beaucoup, Lucie, pour votre témoignage. Jennifer, il y a bien quand même des tendances que vous avez essayées, vous, j'imagine. Vous avez dit le yoga, par exemple. Mais est-ce qu'il y en a certaines ? Le yoga, ça vous fait du bien, donc c'est tant mieux. Ça ne nuit pas, je pense, à la planète. Est-ce qu'il y a eu quand même des tendances qui vous ont peut-être piégé et sur lesquelles vous avez ouvert les yeux, justement ?
Pas vraiment, il n'y a rien qui me vient là spontanément, mais pour une raison assez simple, c'est que ça fait quand même 10-15 ans que je suis particulièrement vigilante, notamment sur les questions relatives à la destruction de l'environnement. Et donc en fait, j'ai mis en place un truc qui est qui fonctionne assez bien, c'est que je bloque mentalement les publicités, par exemple.
Comment vous faites ?
Alors déjà, je circule à vélo, donc je suis plus dans le métro, donc on est quand même beaucoup moins assaillis par ces énormes 4x3, etc. Et puis je ne les regarde pas quand je les croise, et j'ai un adblocker sur mon ordi. Et alors après, maintenant, il y a le problème d'Instagram qui a introduit la publicité de manière extrêmement insidieuse. Et donc, par exemple, pour vous dire, parce que je ne me mets pas au-dessus de la mêlée, on galère tous à être cohérent dans ce monde d'immenses incohérences et de n'importe quoi. Je sais qu'il y a un truc auquel je vais succomber là. Je sais que je vais manger du collagène dans pas longtemps.
Ah,
ils
n'arrêtent
pas
rien,
de me pousser. Sérieux ?
Mais bien sûr que non.
Mais je suis à fond. Mais moi, c'est mon salut. Je me suis dit, mais je vais manger du collagène et ça va aller mieux.
Essayez, à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose. Mais bon,
vous avez essayé ?
Si vous le faites et vous trouvez ça bien, je le ferai aussi.
Voilà.
Mais alors, on le disait tout à l'heure, certaines tendances peuvent être plus dangereuses qu'inspirantes. Vous parlez des mompreneuses, par exemple. C'est-à-dire, vous savez, ces mères qui, en apparence, arrivent à concilier productivité au travail avec un bébé sur les genoux.
On ne les aime pas trop, non ?
Ce n'est pas ça. Mais ce que vous dites, c'est que ça met une pression de dingue, c'est ça, plutôt que de motiver les autres mamans ?
Bah oui, en fait, le syndrome de la môme preneuse, le problème, c'est qu'il est trompeur. C'est-à-dire que déjà, ce sont des femmes qui généralement, enfin celles qui sont qui se mettent en scène sur les réseaux sociaux, qui sont quand même très privilégiées d'un point de vue économique, qui peuvent se permettre d'arrêter de bosser et d'investir dans une nouvelle activité, qui sont parfois aidées quand même, ce qu'on ne voit pas forcément, mais par des nounous, etc. Et donc, c'est quand même une caste de la population qui est particulièrement
privilégiée,
quoi. Ouais. C'est plus facile pour elle. Et donc, c'est vrai que cette injonction à l'ultra-performance, déjà, elle est trompeuse parce qu'elles ont des conditions de vie qui ne sont pas celles de tout à chacun. Et ensuite, pour le reste de la population, c'est déjà pas facile d'être une femme aujourd'hui, on le sait. La charge mentale, tout ça, bon, je ne vous apprends rien. Et donc, c'est vrai que quand on voit ces femmes ultra-performantes, toujours bien sapées, toujours en pleine forme, avec une bonne mine et leur bébé qui ne tape pas sur le clavier quand elles sont en train de bosser sur un tableau Excel,
ça énerve.
C'est agaçant et surtout, c'est impossible, c'est inatteignable. Et il n'y a rien de pire qu'un objectif inatteignable.
Bon, alors vous n'allez pas être très copine, je pense, avec Jennifer, avec Julia, puisque vous critiquez dans le livre les méthodes de rangement de Marie Kondo, qui est la prêtresse de Julia.
C'est notre mère à tous.
C'est quoi le problème? Parce que bon, ranger, trier, c'est plutôt ça, on fait du vide, mais le problème, c'est qu'on fait du vide pour mieux re-remplir, c'est ça?
Non, alors d'abord, moi, je n'ai pas de problème avec le fait de ranger, c'est bien. En revanche, ce qu'on adresse, c'est que là aussi, on y voit un symptôme, c'est-à-dire que ça va mal dehors, c'est le bordel, on ne sait pas quoi faire du monde réel tel qu'il est, de la sixième extinction de masse, de la Troisième Guerre mondiale, de tous ces trucs qui nous terrorisent. Et donc, du coup, on va chercher à mettre de l'ordre chez nous, mais de manière un peu névrotique. Et donc, c'est plutôt ça qu'on adresse, c'est-à-dire qu'en soi, c'est pas mal de ranger. Ce qui est un peu plus gênant, c'est quand ça devient une espèce de psychose et qu'on a besoin d'être aidé, coaché, et qu'encore une fois, on a besoin d'être pris par la main pour savoir comment plier nos t-shirts. Ça, c'est plus questionnable.
C'est vrai qu'il y a des coachs Marie Kondo qui viennent chez vous pour vous apprendre à ranger. C'est vrai que c'est
une manne, ils se font plein d'oseilles en plus. Enfin, ils deviennent consultants en rangement et tout ça.
Alors dites-moi, quel serait votre meilleur conseil pour ceux et celles qui nous écoutent, pour déjà justement ouvrir les yeux peut-être? Comment on s'aperçoit qu'on est trop, peut-être, ou très, trop sensible aux tendances?
Alors je pense qu'en premier lieu, il faut acheter notre livre, bien sûr.
C'est une tendance d'acheter votre livre.
Mais oui, mais c'est la meilleure d'entre toutes. Et non, et par ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose qui est négligé, malheureusement, aujourd'hui, qui est le rapport à la nature. Et moi, je pense qu'il faut trouver un moyen de se reconnecter le plus souvent possible et d'aller se promener loin de tous les oripeaux de la civilisation. Parce que ça nous bouffe et que ça nous chatouille, grignote le cerveau. Et que quand on se retrouve dans un environnement où il n'y a pas de manifestation de la civilisation, c'est une bouffée d'oxygène qui est considérable. Donc ça, je pense déjà que c'est un truc facile à faire, d'aller se promener en forêt ou n'importe où, et le plus souvent possible, en éteignant son écran. Je pense que ça oxygène le cerveau et que ça permet de prendre une saine distance. Parce que le principal enjeu, je pense, c'est de prendre de la distance face au monde dans lequel on vit.
Et pourquoi pas aller le faire en forêt, effectivement. Je pense qu'on n'a pas besoin de coach pour ça. Merci beaucoup, Jennifer, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle, pour ceux et celles qui voudraient en savoir encore davantage, le livre que vous avez coécrit avec Safia Azzedine, Tendance, plaidoyer pour ne plus en suivre aucune, aux éditions Robert Laffont. Julien, on va passer à une autre thématique à présent.
Et oui, dans quelques minutes, on va accueillir nos bienfaiteurs qui vont nous suggérer, pour que ça soit une tendance mince, des cadeaux de Noël écolo, des jouets, des livres ou même des objets, des présents écolo responsables pour toute la famille. Et puis ensuite, on va voir si s'entraîner, faire du sport à deux en amoureux, c'est vraiment une bonne idée pour se motiver à chausser les baskets. Alors reste avec nous sur Europe.